Voilà, il est 8h16, on est toujours sur les ondes en compagnie de nos invités Léonide et Looping. Bonjour à vous et bienvenue.
Salut.
Ah oui, mais alors avec vos micros, peut-être ça va être mieux.
C'est ça, j'avais monté le micro vert, mais ouais. Finalement c'est le micro jaune, pas de chance.
C'est ça, est-ce qu'on vous entend là un petit peu?
J'espère, je ne sais pas, oui.
Oui, micro jaune, ça va.
Et micro rouge...
Attends.
Parlez, on va parler bien, rapprocher un peu mieux.
Vous m'entendez là?
Ouais, on t'entend très bien là comme ça. Ouais.
C'est
mieux. Donc, c'est parfait.
Là, c'est très bien. Donc bienvenue du collectif Maskoff. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà vous présenter, nous présenter le collectif et le projet Maskoff.
Oui, et vous-même vos prénoms comme ça. Enfin.
Je les ai dit, c'est Léonide et Looping.
Ouais, mais
Fred, tu suis pas.
Je ne suivais pas, c'est vrai. C'est et puis j'ai pas aussi avec les couleurs de micro, quoi.
On peut pas être partout. On vous écoute, pardon.
Ouais, sorry, je vous ai coupé. Donc moi, tout simplement, je m'appelle Léonide. Et voilà, en fait, on est un groupe d'étudiants de l'IEX. C'est une haute école en communication sociale. Et donc, on fait un master en animation socioculturelle et éducation permanente. Et donc pour notre mémoire, on fait un mémoire médiatique et c'est une série d'interviews, de capsules vidéo où on interroge le monde militant qui ont des pratiques, on va dire, non
conventionnelles.
Ouais, non conventionnelles. Et genre, en gros, c'est... on veut donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole dans les médias classiques, c'est-à-dire les casseurs, les gens qui font de l'affichage sauvage, etc. Et voilà, notre but, c'est un peu de leur donner la parole pour qu'eux aussi puissent s'exprimer. Comme ça, on n'a pas qu'un seul point de vue et qu'on puisse se faire un jugement sur ces pratiques.
Ouais, et plus largement, le but, c'est aussi de déstigmatiser le monde militant. Parce que nous, on considère que ce monde-là, dans les médias mainstream, on va dire, dans les médias en général, il est un peu décrié. On parle souvent de ce qu'ils ont cassé sans questionner... le fond de leur idéologie ou l'utilité de leurs actes. Et c'est ça qu'on aimerait remettre en question. Et c'est aussi pour ça que notre slogan, c'est « Un autre regard sur le militantisme ». C'est vraiment le but qu'on poursuit, de poser un autre regard sur toutes ces personnes qui s'activent au quotidien pour changer les choses et qui ne sont pas souvent respectées dans leurs actions.
Et donc, c'est par le biais de capsules vidéo. Et est-ce que ça a été facile de rencontrer des militants qui acceptaient en fait d'être filmés et de pouvoir témoigner?
Oui, ça n'a pas toujours été évident. En fait, les militants, on les trouve assez vite. Mais une fois qu'on leur demande s'ils veulent prendre la parole, déjà, ils sont assez méfiants envers les médias, en particulier les militants les plus virulents. Après, du coup, on a essayé de surtout contacter des personnes qu'on connaissait, parce qu'on est 6 dans le groupe, personnellement, via nos réseaux personnels. Et au final, voilà, on a su trouver des gens vraiment intéressants et variés dans leurs propos et dans leurs actions. Donc on a des écologistes, des gens qui se battent au quotidien pour leur boulot, des gens avec une vision plus politique. Mais tous ne veulent pas révéler leur identité. Et ça, c'est quelque chose qu'on respecte dans nos capsules vidéo. Donc quand l'identité est maintenue anonyme, on fait en sorte que ça le reste.
Parce que nous on a juste pu écouter une capsule, mais de manière audio. On n'a pas vu ce rendu vidéo. Donc dans ce rendu vidéo, du coup, moi j'imaginais la tête du militant qui parle. Comment est-ce que vous assurez une capsule vidéo intéressante alors que vous ne pouvez pas montrer de visage ou...
Bah, tout simplement, on leur met une cagoule, ou bien on fait un effet de contre-jour, on leur met une écharpe. On a toutes sortes de moyens. En fait, on a même varié pour que ce soit pas tout le temps la même chose.
Ouais, et au niveau de l'identité visuelle, plus largement, on a un côté assez dark. Donc, souvent, on les filme dans la pénombre avec un fond noir. Nos couleurs principales, c'est aussi le noir et le blanc. Et donc, on joue sur cette identité visuelle, sur le côté Maskoff qui veut dire un peu dissimulé, en fait. Que ce soit dissimulé derrière une cagoule ou dissimulé dans la pénombre, on fait en sorte que ce côté dissimulé reste tout le temps.
Ok, c'est... Est-ce que justement ça peut pas avoir cet effet contraire de stigmatiser, enfin on a déjà cette idée du black bloc avec la cagoule, tout ça. Est-ce qu'il n'y avait pas cette crainte de, attention, mais est-ce qu'on joue pas dans des stéréotypes que les gens peuvent déjà avoir, et comment vous abordez ça?
Oui, en fait, il faut savoir que on veut déstigmatiser, mais ce qu'on veut avant tout, c'est déstigmatiser pour eux les servir dans leur action. Donc, si il y a des gens qui se limitent à l'apparence, évidemment, là, ils vont prendre peur, entre guillemets, et ils vont pas aller plus loin que l'effet pénombre ou que l'effet cagoule, et ils vont se limiter un peu aux idées reçues. Mais par contre, des personnes qui commencent à s'intéresser au militantisme, on pense par exemple aux jeunes qui ont marché pour le climat ou à, je sais pas, des syndicats ou des personnes qui sont dans le militantisme mais qui ont l'habitude de méthodes plus douces, eux, ils vont être intéressés par le sujet et donc ils vont peut-être aller plus loin que l'apparence. Et c'est ça notre but, c'est d'étendre un peu la déstigmatisation, c'est dur à dire, des méthodes. Dans tout le monde militant, en fait.
Il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, c'est que s'ils ont des cagoules, par exemple, c'est parce qu'ils encourent des risques pour ce qu'ils font. Et donc, on va pas non plus. Enfin, ils font déjà pas mal en se mettant un peu à découvert comme ça. On va pas non plus les pousser à se livrer à des amendes, à la police ou à de la prison.
Non, tout à fait. Mais voilà, enfin, mais il y avait justement, enfin, parce que, enfin, c'est un des tropes médiatiques de. Du militant et sa cagoule, et donc enfin arriver à changer et à malgré tout visuellement se défaire de ce stigmate. C'était intéressant de voir comment vous envisagiez la chose.
Ouais, en fait, c'est aussi pour ça que l'image est assez sobre, c'est vraiment pour mettre en avant le propos plus que l'image.
Et d'ailleurs, en effet, dans les médias mainstream, comme tu disais, on voit très, enfin, on voit même pas du tout, en fait, cette parole des militantismes. Il y en a beaucoup. Là, dans ce que j'entends, il y a quand même un parti pris, en fait, que vous avez dans la tendance, en fait, militante politique. Et je me demandais, est-ce que dans tout ce panel, vous auriez fait la même chose avec, je sais pas, des militants d'extrême droite, par exemple?
Alors non, justement, nous, quand on a dû se questionner par rapport au thème que l'on allait aborder, on a remarqué qu'on avait tous dans le groupe plus ou moins la même idéologie, enfin les mêmes principes dans notre idéologie en tout cas. Et du coup, évidemment, on est plus axé à gauche et donc on a préféré ne pas donner la parole à n'importe qui pour ne pas diffuser une parole qui serait pas en accord avec nos principes.
En fait, aussi, c'est surtout vu qu'on défend des causes sociales, on défend des causes minoritaires. Non, désolé, donc je répète si on m'a mal entendu. Vu qu'on défend des causes sociales, on défend un peu des minorités quelque part. Et donc, en général, les militants qui défendent des minorités, bah ils sont de gauche. Et ceux qui défendent plus la majorité, on va dire, plus souvent, ils sont de droite.
Ouais, c'est ça. En fait, on est progressiste et donc tout ce qui est les valeurs conservatrices et protectionnistes, on va dire, on est un peu opposé à ça. Nous, on a commencé ce projet en faisant un constat d'urgence climatique et d'inégalité sociale, et c'est là-dessus qu'on se base en grande partie.
Et donc, vous nous avez envoyé une capsule qu'on va pouvoir écouter déjà pour se faire un peu une idée du projet, et puis en reparler juste après, ça vous va?
Ok, parfait.
Avec notre collectif Maskov, on veut avant tout donner la parole au monde militant et à ceux qui l'incarnent le mieux. C'est pourquoi nous avons reçu un militant radical, actif sur le terrain. Nous l'appellerons Camille. Il a répondu à nos questions concernant sa lutte et les différentes actions qu'il peut mener. Donc salut Camille, tu peux peut-être te présenter?
Du coup, je suis un jeune dans la vingtaine. Et je milite depuis bientôt 8 ans entre la Belgique et d'autres pays d'Europe. J'ai milité dans des organisations de lutte, dans des campagnes, de façon plus ou moins autonome, sur des zones d'occupation, sur différentes thématiques. Et voilà, j'ai des parcours plus institutionnels dans ma lutte et plus autonomes.
T'as pas l'impression parfois qu'en Belgique, on manque d'engagement?
Tout un pan de la gauche aujourd'hui se plaint de pas avoir assez de personnes, mais déjà par exemple, au sein de, je vais prendre une grande ville comme Bruxelles, les militants bruxellois sortent très rarement de Bruxelles et sont eux-mêmes en fait dans l'ignorance de luttes qui peuvent y avoir sur des usines en dehors. Sont pas au courant des luttes qui peuvent y avoir au sein des quartiers populaires de Bruxelles. Parce que t'inquiète que les gens, ils sont pas là en train de subir des choses comme ça au quotidien, dans le plaisir. Non, en fait, les gens, ils se bougent, les gens, ils ont des stratégies, des méthodes qui sont peut-être pas les tiennes, mais l'émancipation de la classe et le besoin d'organisation de la classe, il existe toujours.
Alors, il faut commencer par quoi?
Déjà, je pense qu'il y a un besoin de formation politique énorme. Faudrait pas que je me monte en pensant que je suis pas dans une espèce d'idéalisation du passé. Mais j'ai l'impression que par moment, même dans un passé assez récent, il y avait une exigence, si on peut parler en ces termes-là, de formation politique de la part des militants qu'il y a moins aujourd'hui.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as un exemple en tête?
Allez, je pense à l'extrême droite, par exemple. Qu'ils aient des faux chiffres. Qu'ils argumentent avec la mauvaise foi, avec la malhonnêteté intellectuelle. Peu importe, la réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs militants, parce que ce sont des militants, si on devait les mettre aujourd'hui face à, je sais pas moi, c'est peut-être pédant ce que je veux dire, mais des jeunes qui ont marché pour le climat, des jeunes qui sont dans un certain engagement, une certaine conscience, si on devait les mettre face à face, sur le champ de la discussion politique, j'ai peur que ces militants pourraient se faire manger par le militant d'extrême droite. Parce qu'en fait, il y a dans leur structure, dans leurs organisations politiques, une réelle importance donnée à la formation politique.
Et tu crois que la manif, elle a encore un rôle à jouer?
La manif classique, elle a complètement une raison d'être. Déjà, de un, c'est un espace de formation politique. Je disais qu'il y en avait un manque, c'est un espace de formation politique. Même si ça va durer 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà ça. C'est déjà ça de pris. Tu vas arriver, tu vas entendre un slogan qui te plaît pas, tu vas aller dire ah, pourquoi vous dites ça? Bah parce que ta 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 ta. Tu vas avoir une pancarte. Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci. Tu vas y réfléchir. À un moment, tu vas peut-être, je sais pas, avoir un média qui passe par là, qui va t'attraper au hasard. Ouais, et tu vas te retrouver. Oh, bah en fait, je sais même pas défendre peu pourquoi je suis là. Merde, il faut que je rentre chez moi, il faut que je m'enseigne. Espace de formation politique. Ensuite, découverte du nombre. Pour beaucoup, comme je disais, on milite sur Internet. Les gens, ils militent tout seuls chez eux, ils pensent que militer, c'est militer au quotidien. Puis à un moment, ils descendent dans la rue et ils font « Oh putain, on est blindés, en fait, il y a moyen de faire plus que juste ça. » Ou en Belgique, « Oh putain, on n'est pas beaucoup, il y a moyen, il faut faire plus que ça. » Et donc ça, déjà, se compter, c'est important, même si ça peut avoir un regard déprimant un peu, de « Ouais, on descend dans la rue pour se compter. » Non, mais à un moment, il faut. Ensuite, c'est un moment, faut savoir, des manifestations pour le pouvoir. C'est jamais rien. C'est jamais inexistant. On croit ça, parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on veut et tout. Non. La police, la manif, ça fait déjà sortir la police. Donc déjà, on comprend un truc. Tiens, quand on veut prendre l'espace public à plusieurs, tout d'un coup, on nous met des flics. Pourquoi? Moi, quand t'as grandi dans certains quartiers de Bruxelles, des flics, on n'a presque jamais vu. D'un coup, ils sont là, ils sont près de toi, ils t'entourent, ils t'encadrent, ils te disent où tu peux marcher, où tu peux pas. Tout ça, c'est intéressant. Et puis c'est con à dire, mais des outils de lutte, on n'en a pas 150 000 à un moment. Ça fait des années, si on était capable de les réinventer comme ça, ça se saurait. C'est un outil. Un outil, tu peux bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Si j'essaye de visser une vis avec un marteau, bah, je vais pas aller loin. Une manif, c'est un outil. Faut savoir l'utiliser, faut savoir en faire les bonnes choses au bon moment.
Et la diversité des tactiques, t'en penses quoi?
Diversité des tactiques, de nouveau, qui dit stratégie, dit temporalité, dit différents contextes. Si t'appliques toujours la même chose, de la même manière, peu importe le contexte, peu importe la période, peu importe le truc, ça marche pas. Juste, ça marche pas. Il y a des moments où il faut... Il y a des moments, un sitting, c'est bien. Se faire taper, vu les outils que t'as en main, vu ce qui est proposé, se faire taper par les flics, assis, c'est bien. Il y a des moments où moi, ça me donne envie de vomir. Je peux pas supporter l'image de ça. Il y a des gens à qui j'oserais jamais dire, tiens, assieds-toi, fais-toi taper par la police. De nouveau, voilà, tu veux t'organiser avec les personnes racisées qui ont une ontologie complètement différente par rapport à la police, tu vas pas organiser un sit-in, machin. Moi, les luttes climatiques, où ça fait depuis les années 70 que tout le monde dénonce tout et qu'on continue à s'asseoir à Kumbaya, à Sartat, non. À un moment, non. Par contre, manif de la santé à la rentrée, les infirmières, les infirmiers, les docteurs, tout le monde à la ligne de flics, et ça se toise, et ça se toise, et il se passe rien. Bon, bah, c'est horrible à dire, mais à ce moment-là, et il y en avait quelques-uns qui étaient prêts, que ceux qui soient prêts à rentrer au contact, et quelques coups de matraque qui passent, bah, c'est con à dire, mais à ce moment-là, ce pacifisme-là, il dénonce un truc, il fait sortir un truc, il fait sortir une image, on en aura entendu parler. C'est horrible à dire, hein. Mais stratégiquement, à un moment, s'il y a des gens qui sont prêts, il n'y a pas mort d'homme, ça peut, de nouveau, ça peut être bien, c'est un outil. Bon, donc, diversité des tactiques, oui, des fois, le pacifisme face à la violence, il peut des fois être bien. Et des fois, non. Des fois, tu ne peux pas que rester assis.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'action pacifique, elle ne suffit plus aujourd'hui ?
Mais il y a une injonction au pacifisme terrible dans notre société. Il y a une invisibilisation des violences réelles, constante. Et face à ça, on répète des trucs, genre, voilà, Gandhi, désobéissance civile. Ouais, ouais, mais alors à l'époque de Gandhi, il faut savoir qu'il y avait aussi des attentats. Hein. Il n'y avait pas que Gandhi. Il n'y a pas que Gandhi tout seul qui a fait plier. En fait, il y avait des colons qui se faisaient tuer par dizaines. Il y avait des Anglais, ils se faisaient... un matin, ils n'étaient plus là. Voilà, c'était ça la réalité aussi. Et à un moment, faire ça un pouvoir, il y a un rapport de force. Maintenant, est-ce qu'à chaque manif, il faut péter des vitrines de banque ? Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression.
Comment tu le vois, le futur du militantisme en Belgique ?
Je pense qu'on a des jeunes... une jeunesse, plus jeune que nous, là, qui se politise, en tout cas en Belgique, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une génération si jeune, entre guillemets, se politiser. Est-ce que c'est forcément un signe d'espoir ? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. D'une certaine manière, assez libérale, assez woke, les jeunes aujourd'hui sont plus politisés qu'on l'était à leur âge. En une semi-génération, c'est même pas une génération, c'est même... En 10 ans de temps, là, c'est flagrant, quoi, vraiment. Je regarde mon petit frère, les cours qu'il reçoit, les discussions qu'il peut avoir avec ses amis à la récré. C'est assez impressionnant. Ça donne de l'espoir. Maintenant, qu'est-ce qui me fait peur ? Je disais qu'il y avait une tension. De l'autre côté, il y a cette récupération libérale des luttes, de l'engagement, qui me fait vraiment peur. Il y a une... Être engagé devient un produit. Les identités de lutte, les identités discriminées, les identités oppressées deviennent un produit. Donc ça prend toutes les formes qu'on connaît, hein, greenwashing, pinkwashing, blackwashing, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, tout le monde se sente engagé. La réussite, la victoire du pouvoir, ce serait que tout le monde se croit engagé, tout le monde se croit en train de lutter, alors qu'on est en train d'amener aucun changement réel. Et ça, c'est un petit peu en train d'être amené, quoi. C'est un peu en train de se construire. Et ça fait peur. De se sentir woke parce qu'on a fait, parce qu'on a mis une photo en noir sur la photo de profil. C'est con à dire, hein, c'est hyper banal. Mais ce truc-là, moi, il me fait peur. Voilà.
Et pour conclure, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent ?
Lisez des livres, des blogs, lisez sur l'histoire des luttes et faites ensemble. Voilà.
On espère que des témoignages comme celui de Camille pourront convaincre les plus hésitants d'entre vous à franchir le pas. Sachez en tout cas que les formes d'action et les enjeux sont multiples. Il y a donc de la place pour tous dans les luttes actuelles. Merci pour l'écoute, c'était Maskov.
Voilà, donc on vient d'écouter votre première capsule, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas si elles sont toutes diffusées... en bloc, ou si vous allez les publier semaine après semaine.
C'est ça. Okay. Une par semaine.
Ouais. Donc, ouais.
Ouais, exactement. On a un fil hebdomadaire et on a genre 6, 7. J'ai oublié le chiffre exact, mais c'est un fil de 7 interviews qui se suivent. Et genre, celle-là, c'était un peu l'interview d'intro parce que un des propos de l'interview, c'est bougez-vous. Ouais, c'est bougez-vous tout simplement. Et après, on va rentrer plus en détail dans des méthodes de contestation, c'est-à-dire les prochains intervenants qu'on va prendre seront plus des représentants de certaines méthodes de contestation, comme des Black Blocs. Je ne sais pas si je dois préciser c'est quoi.
Tu peux,
Ce sont Ce sont des gens en manifestation qui prennent, qui défendent un peu de la police. Bon, ils font un peu de casse aussi, etc. Mais en gros, ils rendent la manif plus active et ils défendent de la police aussi. Il faut pas non plus oublier ça. Il y aura aussi, par exemple, des zones à défendre. Vous voyez, c'est quoi ? C'est, par exemple, quand des écologistes prennent une forêt,
comme la ZED d'Arlon, par exemple.
Ouais, prennent une forêt qui a des ressources naturelles rares et qui se mettent dessus pour empêcher que des industriels viennent la détruire. Et donc voilà, en gros, on aurait une série d'interviews, on aura des gilets jaunes, etc. Et donc avec des thèmes plus spécifiques pour que peut-être certaines personnes puissent plus s'identifier.
Des façons de militer et de lutter, donc vous l'avez dit, il y en a plusieurs. Et donc là, tu en as cité quelques-unes. Et quel autre mode d'action vous avez pu découvrir pendant les interviews ?
En fait, on a essayé d'être diverses, non seulement au niveau des modes d'action, mais aussi des combats défendus. Et un exemple de choses qu'on a découvertes, c'est le mouvement La Santé en Lutte, qui est un mouvement assez récent par rapport aux révoltes qu'il y a pu avoir dans le monde médical durant le coronavirus. Et donc là, on a vraiment des personnes qui sont novices dans le monde militant et qui amènent des nouvelles méthodes, qui veulent surtout amener du nombre et essayer d'avoir une certaine convergence entre des luttes qui peuvent paraître parfois très diverses, comme le féminisme et le monde du travail. C'est pas forcément des trucs qui ont l'habitude d'être associés dans le monde militant. Et là, avec La Santé en Lutte, c'est peut-être la première fois où ça se fait vraiment. Et donc ça nous paraissait hyper intéressant.
Tu veux dire que... est-ce que, dans ce que vous avez, par rapport aux personnes que vous avez pu interroger, est-ce que chacun, chacune était un peu dans sa catégorie et ouais, milite alors pour, une cause en fait spécifique ? Et est-ce que dans les différents discours, vous avez pu entendre, tu t'as parlé de convergence, une forme de convergence, de dire mais ok, il existe... les gilets jaunes, les zadistes, etc. Enfin, comme vous l'avez dit. Et à un moment donné, est-ce que ces gens se rencontrent ?
Ouais, totalement. Ils se rencontrent totalement. D'ailleurs, un des trucs qu'on a dû diriger, c'est qu'en général, les militants qu'on interrogeait, ils ne faisaient pas qu'une seule méthode. Ils ne s'organisaient pas qu'à travers une seule méthode de contestation. Ils se connaissaient les uns les autres. Mais on a essayé de les diriger de sorte à ce que il soit représentatif d'une méthode de contestation afin que chaque capsule soit dirigée vers une thématique précise afin de l'explorer en détail. Mais sinon, ouais, ils s'organisent entre eux. Souvent, ils se connaissent entre eux. D'ailleurs, très souvent même, ils se connaissent entre eux quand on discute un peu. Et ouais, voilà, forcément, chaque outil a son utilité. Hein. Comme le dit Camille dans son interview, un marteau ne sert pas à visser et une vis ne sert pas à penser.
Ouais, c'est ça. En fait, dans le militantisme, il y a plein de méthodes différentes. Et ce qu'on a voulu, c'est en présenter le plus possible, mais sans les opposer. Et je pense que ça se retranscrit assez bien dans nos interviews, notamment ici, la première qui est sortie, où il montre bien que quand on lui présente d'autres options de révolte, il les rejette pas en bloc, il est ouvert à toutes les formes d'options, mais ça dépend du contexte selon lui, et c'est aussi un peu notre manière de voir les choses.
Et là, on parle plutôt aussi de collectifs organisés aussi, qui ont aussi une certaine éducation politique déjà présente.
Alors non, en fait, il y a des collectifs organisés comme La Santé en Lutte. D'ailleurs, ça, c'est un collectif assez nouveau. Mais les militants au sein d'eux, on a dit qu'ils étaient peut-être nouveaux dans le milieu du militantisme. On ne sait pas, peut-être pas chacun d'entre eux, parce qu'ils sont beaucoup dans... C'est le mouvement, en fait, qui est assez, assez récent. Mais sinon, il y a Extinction Rebellion, par exemple, qui est un peu plus ancien. Pas beaucoup. Enfin, il ne date pas des années 80. On a pris des gens représentatifs de notre époque. Mais ouais, on a des groupes qui sont organisés, comme même des organismes politiques. C'était d'ailleurs les personnes les plus faciles à atteindre, mais on a aussi des personnes qui sont beaucoup moins organisés et qui s'organisent à travers des réseaux décentralisés en se connaissant les uns les autres pour pas se faire choper par la police justement. Et ça, c'était des personnes qui étaient justement plus difficiles à atteindre. Et donc ouais, voilà, tout le monde n'est pas organisé. Et quelque part, eux, ils sont obligés de ne pas être organisés parce que pour la police, s'il y a une seule source à suivre, enfin une seule organisation à suivre, bah, il suffit qu'ils en chopent un et tout le réseau saute. Tandis que s'ils sont décentralisés, ils en chopent un, mais il y en a 10 qui sont dans d'autres coins. Et donc, ils sont obligés de s'organiser comme ça. Et voilà, tout le monde n'est pas organisé, tout le monde a ses opinions, tout le monde ne s'organise pas de la même manière. Mais ça, chaque méthode a ses avantages et ses défauts.
Ouais, et le meilleur exemple, je pense, c'est les interviews qu'on va faire avec une zadiste, parce que la ZAD d'Arlon, c'est vraiment un système. Enfin, déjà, c'est de la désobéissance civile, donc il n'y a rien d'officiel. Ils sont tous anonymes. Comme leur action est illégale de base, ils font tous très attention à ne pas révéler leur identité et à ne pas révéler leur réseau. D'influence et de lutte. Voilà, à part se rendre sur place, il n'y a pas beaucoup de moyens de les atteindre. Et pour nous, ça, c'est vraiment une action qui valait la peine d'être étudiée malgré tout.
Est-ce qu'on a pu aussi vous raconter des victoires? Dans le sens où militer, c'est dur, ça demande énormément aussi d'énergie, d'engagement personnel. Et on se rend compte parfois que on a cette sensation d'aller droit dans le mur alors que les choses continuent en fait d'avancer dans un monde qui va pas dans le sens du social voilà, de la solidarité. Et donc c'est toujours une distorsion en fait qui est là tout le temps, et quand il y a des petites victoires elles sont toujours en tout cas à mettre en avant aussi. Est-ce que vous avez pu avoir des exemples?
Encore une fois, la ZAD d'Arlon, c'est, de base, c'était un projet où il n'y avait pas beaucoup de monde, où vous n'étiez pas sûr de rester longtemps. Et le projet face auquel ils s'opposaient, donc le projet dit Deluxe d'envahir, je veux dire, une forêt qui était classée comme patrimoine naturel par la Wallonie. Là, maintenant, ça fait plus d'un an qu'ils occupent ce terrain et ils sont en passe de faire annuler le projet d'Idelux, ou en tout cas ils le mettent fort en difficulté. Et donc là, ce serait beau comme victoire, parce que ce serait la première victoire sur le territoire belge d'une occupation de terrain qui va au bout et qui permet d'annuler un projet qui est destructeur et capitaliste. Et sinon, plus largement, nos intervenants, souvent, ils ont des petites victoires et mais leur mouvement global, c'est une lutte qui n'est jamais finie en fait. Mais c'est des gens qui sont assez utopistes dans leurs idéaux, mais qui savent que tout ne s'accomplira pas, mais qui fonctionnent beaucoup à l'espoir et aux petites victoires justement.
Et aussi, c'est quelque chose que l'on ne remarque pas souvent, mais en fait, les petites victoires, parfois, on n'en remarque pas les effets directement, mais à travers les années, des fois, ils se rendent compte en discutant avec des gens et tout qu'en fait, cette petite victoire de rien du tout, elle a inspiré d'autres gens, alors que sur le moment, pendant un an, deux ans, enfin bref, ils ne se sont pas rendus compte et ils étaient un peu dépités. Et donc ça aussi, parfois, ça peut remotiver.
Je propose de faire une mini pause musicale. Ça te va, Fred ?
Yes, tu as ça sous la main ?
Oui.
C'est parfait, alors.
Tout à fait. Au moment où je dis ça, alors du bloc total. Mais ok.
Alors, du matin, on voit aussi, quoi.
Je sais pas, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui ont décidé de ne pas fonctionner. Ok, je vais aller ailleurs.
Voilà.
Non, mais il y a des lundis comme ça. Voilà, on va faire avec. Hein. On écoute Exuma.
They say he's been dead a long time. Come, let us go to the sepulchre. What you bring me out here for? I'm scared. You bring me to nobody's grave.
Careful now. Watch how you open the coffin now. He been dead 300 years. Wait. Look. Look. You know meat on a bone. You know meat on a bone. I can see straight through to your knee. Wait now. Wait. 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 See? He winking one eye. He living. He living. Let's run.
Les promesses de l'aube, désormais il est 8h49. Et donc on est toujours avec le groupe Maskov, j'ai failli dire collectif, je sais pas, ou d'équipe Maskov.
Collectif,
je sais pas,
on se revendique comme collectif.
Donc vous produisez une série de capsules, donc on a pu en écouter une, vous avez commencé à les diffuser là, maintenant, il y a un calendrier prévu.
Oui, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est un calendrier hebdomadaire. Et donc, ici, c'était la première vidéo. Il y en aura 7 en tout. Et c'est une par semaine. Donc, ce sera tous les dimanches. Mais durant la semaine, il y aura de la communication plus large par rapport à l'actualité ou par rapport à notre propre promo.
Et on se demandait hors antenne s'il y avait une diversité d'âge aussi.
Bah, forcément, pour les organismes officiels. Eux, on les a contactés à travers des réseaux sur Internet et tout. Du coup, là, on a eu des gens un peu plus âgés que nous. Mais sinon, pour les organismes moins officiels, on a dû fonctionner au bouche à oreille. Et donc, forcément, on a touché des réseaux plus proches de nous et donc plus représentatifs de notre âge, c'est-à-dire 25.
Environ 25, la vingtaine, on va dire. Et
on donc... dit pas son âge à l'antenne.
Jamais. En tout cas, nous, on ne dira pas.
En tout cas, nous, on se revendique encore comme jeunes. Mais on voulait aussi parler à un public jeune. Donc, comme j'ai dit, c'est des gens qui sont intéressés par le militantisme, mais qui ne sont pas encore hyper actifs dedans ou pas encore hyper renseignés. Et donc, souvent, c'est un public assez jeune. J'ai parlé tout à l'heure des manifestations climat. C'est un peu l'exemple type, mais il y a plein d'autres formes de public jeune intéressé par le militantisme. Et c'est aussi pour ça qu'on s'exprime via Internet. Et donc... nous, on est jeunes, notre public est jeune, et donc forcément, on essaie d'avoir des intervenants pas trop vieux non plus.
Ça veut dire, c'est jusqu'à vous, pas trop vieux.
Attention,
question piège.
En tout cas, dans leur manière de penser, ils sont assez jeunes. Ils sont assez prêts à tout pour changer les choses, donc c'est ce qui compte.
Et en dehors de la diversité d'âge, est-ce qu'il y a aussi une diversité de milieux sociaux?
Oula,
ouais,
ça c'est une...
Ouais, tout à fait, ouais. Bah, je ne vais pas cramer de couverture non plus. Mais ouais, on a des gens de plusieurs ethnies, enfin des personnes racisées, discriminées. On a des personnes d'un milieu au niveau financier qui sont plutôt bien. On a des personnes d'un milieu financier qui sont vraiment pas bien. Bon, tout est relatif, mais voilà. Mais ouais, au final, le panel est assez large.
Ouais, et donc on a aussi des personnes, ça je pense que ce sera révélé dans les vidéos à venir. Il y a des personnes qui ont intégré le monde militant via les études, ou via du moins le monde étudiant, et d'autres qui ont été par des chemins beaucoup moins officiels, je veux dire, qui ont fait leur bout de chemin individuellement et qui ont fait des rencontres et qui finalement sont tombés dans le... Enfin, tombés. Sont arrivés dans le monde militant comme ça.
Et au niveau de la diffusion donc, de ces capsules, est-ce que vous attendez une diffusion médiatique mainstream?
Radio Panique, c'est mainstream ou pas?
Non, mais plus sérieusement, nous, on recherche pas le chiffre, on recherche plutôt à diffuser un message. Du coup, si on réussit à faire en sorte que d'autres médias puissent nous partager, on leur donne, c'est pas un souci. Nous, on veut pas avoir 1 million de vues sur YouTube, etc. On veut...
Ça veut dire aussi que ça peut être que ça peut avoir aussi une espèce d'objectif pédagogique aussi, de conscience en fait des luttes, et donc qui peut aussi être amené à être diffusé dans des écoles, plein d'endroits en fait d'éducation populaire aussi.
Ouais, clairement, même moi je pensais, enfin vu que je suis un peu en charge des partenariats, même moi j'en ai même pas parlé au groupe, donc c'est une exclu.
Révélation.
Ouais, c'est ça. Mais même moi, je pensais peut-être, quand le projet était fini, prendre les capsules et les envoyer à des ASBL, etc., pour leur proposer de le réutiliser dans des programmes d'éducation permanente.
Ouais, et plus largement, pour revenir là-dessus, donc on vise pas le nombre, mais on vise un public cible qui est clairement défini, c'est les jeunes intéressés par... Enfin, les personnes intéressées par le militantisme. Et du coup, clairement, notre public cible, il concerne pas la ménagère de 50 ans qui va regarder... le JT d'RTL tous les soirs.
Ça n'existe pas, la ménagère de 50 ans.
Ouais,
tu ne parles pas comme un jeune, là.
J'entre un peu dans les clichés, mais je veux dire, la personne non conscientisée qui va juste consommer les médias de manière presque, enfin très passive.
En même temps, c'est dommage de ne pas atteindre ce type de personne.
Après, il n'y a pas de... Enfin, comme notre truc est sur Internet, il est fermé à personne, hein, officiellement. C'est juste que dans les réseaux qu'on essaie de créer, c'est pas... on est quand même assez engagé politiquement, et donc forcément, ça crée des biais. On contacte certaines personnes plus que d'autres, etc. Mais officiellement, on est opposé à personne.
Mais en fait aussi, si on cherche à toucher tout le monde, on parlera à personne. Du coup, il faut qu'à un moment... On utilise des jargons, des méthodes pour contacter certains groupes.
Parce ouais. que... Viser trop large, c'est viser personne.
Et donc, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler où on peut retrouver ces capsules?
Oui, donc nos vidéos, elles sont disponibles sur YouTube. Donc, vous tapez Mask Off Projet Média pour être sûr, sinon vous allez tomber sur une... chanson de rap américain.
Donc ça s'écrit bien M-A-S-K et plus loin O-2-F.
Oui, c'est ça. Et nos vidéos, elles sont aussi disponibles sur Facebook. Et donc la page, c'est Mask Off Projet Média. Et sur Instagram, c'est maskoff.media pour notre communication plus large.
Et donc maskoff.media, Mask Off en attaché.
Ouais.
On mettra les liens aussi sur la page...
Du podcast, ouais, de Panique, tout à fait.
Voilà, tout à fait.
Ok, merci.
Il est 8h56, ouais. On arrive à la fin des Promesses de l'Aube.
Ouais,
on vous remercie, Léonie Delouping, d'être venue jusqu'ici présenter votre projet.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.